Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ce soir, puisque j'étais avec un invité que je veux rencontrer depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est totalement différents l'un de l'autre. Ça fait une couple de fois que je le vois passer sur les réseaux sociaux. On l'écoutait à la télé. J'ai été voir un de ses spectacles il y a de ça quelques années. Et il est devant moi, c'est Louis T. Salut Louis T!
Hello, hello. Est-ce que tu étais venu voir mon premier spectacle? Est-ce que tu te souviens où c'était un corpo ou c'était quelque chose d'autre?
Je pense que c'était un corpo que j'avais vu à l'époque. Possible. Mais j'avais apprécié le gars. Il parlait des différentes thématiques de l'actualité une fois de temps en temps. J'aimais bien ça. Puis je me suis dit... Puis après ça, ben... Je t'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux, je regardais un peu ce que tu faisais, puis j'ai toujours apprécié ce que tu faisais, soit dit en passant, même si nos styles sont complètement différents. D'ailleurs, il est tout le temps habillé comme un prince, lui. Il est tout le temps sapé comme un prince. Je m'attendais à ce que tu arrives ici en T-shirt. Je me suis dit, bon, il va arriver en chemise-cravate comme d'habitude.
Pour de vrai, c'est fascinant parce que ça m'habite, cette question-là. Je porte plus de complet parce
c'est
que...
C'est fini?
Je trouvais... je trouvais pas plus ça confortable en vieillissant. Ouais. Je suis plus capable que ça me serre le ventre.
C'était-tu une façon, c'était-tu une façon de te différencier des autres? Parce que tu sais, les humoristes étaient tous t-shirts, jeans.
Oui. J'assume que c'était pour me donner un peu une crédibilité. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, là, je suis sorti de l'école de l'humour à 25 ans.
Ouais.
Je me suis mis à parler d'actualité, de politique par la bande. Là, tu sais, puis là, tu te dis, hey, le petit jeune de 25, 26, 27 ans qui arrive devant des gens de 30, 40, 50 ans, puis qui te parle d'actualité, je dis, si je t'habillais comme mon âge, ils m'écouteront pas. Tu sais. Fait qu'il y avait une volonté de positionnement en disant, si je t'habillais en complet cravate, Ça fait comme si j'avais des études. T'sais? Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il y avait une démarche réfléchie à l'idée de s'habiller de même. Puis je me suis tanné. Je me suis juste tanné de m'habiller de même. Fait que je t'en. Puis la pandémie, on va dire qu'être habillé en mou pendant la pandémie, ça m'a pas déplu.
Ouais.
J'ai vécu ça. Fait que maintenant, le gars. Parce que je suis presque habillé comme sur scène en ce moment, comme tu me verrais sur scène.
OK. Mais tu vas pas te mettre un chapeau haute forme là, pour te différencier des autres, non, c'est
non,
ça?
Non, pas à ce point-là.
Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire de l'humour, toi? Parce que tu dis que tu es arrivé à 25 ans. Est-ce que tu rêvais depuis longtemps de faire de l'humour?
Non. J'ai pas. J'ai toujours été fasciné par ça. J'en ai écouté. Quand tu grandis au Québec, l'humour, il est partout. Hein, t'sais, puis des gars-là, juste pour rire, ça m'impressionnait de voir ça à la télé. Là. Moi, j'étais fasciné de voir des humoristes. Mais j'ai pas pensé faire ça pendant assez longtemps. Là. Moi, je pensais être policier quand j'étais au secondaire. Après ça, j'ai un peu perdu le goût de ça. Puis là, j'étais allé à l'université en administration en sachant pas trop où je voulais aller non plus. Mais tu sais, moi, je viens du Saguenay, je viens de Jonquière. Puis à Chicoutimi, administration, c'est pas mal là où ce que le monde qui veut pas lâcher l'école continue à aller, tu sais, parce que ça te donne plein de choix. Tu peux aller un peu n'importe où. Puis j'étais bien malheureux, là, à
l'université. Qu'est-ce que tu trouvais attractif dans l'humour? C'est la façon de se livrer sur scène, la réaction qu'un humoriste peut avoir avec son auditoire, l'effet qu'un humoriste pouvait faire dans la salle, le fait que au Québec, je veux dire, l'humour, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui était attractif pour Louis T?
La réponse courte, ça pourrait dire « Hey, c'est le fun de faire rire le monde, c'est trippant, ça a l'air une belle vie. » Mais la réponse plus introspective, là, c'est que j'étais fasciné comment les humoristes arrivaient à rejoindre les gens, à passer des idées, à connecter avec les gens. Puis moi, j'avais pas ça. Fait que c'est cette fascination-là, essayer de reproduire ça, c'est ça qui m'a attiré vers l'humour, pour de vrai.
Ouais.
En me disant, comme, ils ont tellement l'air de comprendre, je veux essayer ça.
Donc, au secondaire, t'avais plus une tête d'avocat qu'une tête d'humoriste. Là.
Moi, je fais partie de ceux là, qui quand j'ai appris ça, annoncer ça à mon entourage, mes amis, ma mère, mes parents, tout, mes amis, même mes amis proches, ont fait comme, quoi? T'es pas drôle, tu sais. Parce que j'étais pas le drôle de ma gang, tu sais.
Ouais.
Je suis pas le drôle de ma gang encore aujourd'hui. Assez cérébral. Je peux être nono, là. J'ai un côté nono aussi, mais je suis pas le clown. J'étais pas le clown, tu sais.
La bonne nouvelle, c'est que t'es pas écouté.
Oui, t'as raison.
Puis ces gens-là t'aiment comme pas possible, mais probablement qu'ils voulaient tellement te protéger pour pas que tu te casses la gueule, qu'ils te faisaient peur de leur propre peur, tu sais.
Ils devaient avoir ça, mais tu sais, il y a plusieurs profils dans l'humour, dans les humoristes. Il y a les clowns, il y a des gens qui sont drôles dans la vie, des conteurs, des drôles. Tu sais, on en a des chums drôles, puis il y en a en impro, sont bons, puis sont capables de reproduire ça sur scène aussi. Fait que ça existe, hein, ces humoristes-là, qui sont des gars drôles de, ou des filles drôles de leur gang. Mais il y a aussi une autre facette à l'humour. Il y a ces gens-là qui, au contraire, ils sont plutôt plates, timides, réservés. Il y en a. Je ne veux pas nommer trop de noms parce que c'est toujours un peu ingrat de parler de monde qui ne sont pas là. Mais tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est un Christy de clown sur scène. Là. Mais dans un souper, là, il est timide. Moi, ça me fait.
Il est tranquille.
Il est tranquille. Je l'ai rencontré pour la première fois, puis il est super réservé. Il est même gêné, tu sais. Fait que c'est impressionnant, mais il y a ça.
Puis dans l'humour, quand tu étais à l'École nationale de l'humour, tu l'as fait en quoi, 2016?
Non, pas 2016.
C'est avant ça?
Ah, ben oui, je suis sorti de l'école en 2007, moi. Ah. Fait que ça fait une couple d'années, là, plus de 15 ans, ouais.
Plus de 15 ans. Qu'est-ce qui te faisait triper dans ces cours-là? C'est quoi les mathématiques derrière l'humour? Les règles de trois.
non, pas à ce point-là. Je suis pas. J'écris pas de l'humour. J'essaie d'écrire de l'humour organique, là, que ça soit une pulsion des idées. Je sais pas de mettre une mécanique derrière tout ça. Là. Mais moi, tout m'intéressait dans l'humour parce que j'ai vu que j'étais passionné de ça. T'sais. N'importe quel prof qui venait, il va nous parler de ça. Je fais comme je t'écoute. Là. J'avais une soif d'apprendre, une fascination pour ce métier-là. Je peux plutôt te dire qu'est-ce que j'aimais pas. Cours d'impro, il y avait un cours de clown aussi, trouver ça dur, fallait que je me déguise puis que tu fasses des personnages.
L'impro, c'était pas assez concret pour toi.
Moi, ça prend un lâcher-prise. Moi, j'ai une admiration sans bande. Je sais pas si t'es déjà allé, tu vas voir de l'impro, t'en as consommé un peu.
Non.
Ah, il existe. Même, je suis venu à Québec il y a pas si longtemps voir le Punch Club, là, du 3 contre 3. C'est
des artistes, là.
Astiche qui sont. Mais ils sont bons, sont drôles, sont vite, mais ils sont pas gênés. C'est surtout ça, tu sais, ils sont prêts à tout faire sur scène, tu sais, pas se mettre nu métaphoriquement, là, tu sais, dans le sens, aller vers l'humiliation, ils n'ont pas de problème. Moi, j'ai pas ça, là. Moi, si tu me mets sur une scène, là, moi, je suis droit, puis je vais pas faire le clown des niaiseries, puis m'humilier, là, je suis pas capable de faire ça. Puis en impro, ça prend ça. Fait que c'est pour ça que je détestais ça. Ça prend... Tu peux pas avoir de la pudeur. Moi, je suis tout pogné dans mon corps, je suis pas flexible. Avec moi en impro, là, sinon, c'est pas mal.
Et puis ton style d'humour, tu l'as découvert comment? Parce que c'est comme tu l'as dit, t'es pas un clown là, qui va avoir divers personnages. Moi, tu sais, quand j'étais jeune, Daniel Lemire a été le premier qui m'a intéressé à l'actualité. À partir du moment où lui est allé un peu plus vers les personnages, bonjour toi, toutes ces affaires-là, j'ai comme décroché de Daniel Lemire, mais n'en demeure pas moins qu'à mes yeux à moi, Daniel Lemire qui parlait d'actualité, je trouvais ça franchement intéressant. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui te faisait rire, toi, avant d'être dans le merveilleux monde de l'humour?
Moi, je suis un bon public à la base. Il y a des choses que moi, je ne fais pas, puis que j'essaie même pas de faire, puis que je reconnais, puis j'accepte. Là. Moi, j'aime ça voir des... Je suis pas quelqu'un qui consomme juste de l'humour engagé, là. Même si j'aime ça. Là, j'aime tous les styles d'humour, mais les Denis Drelais me font rire, ça n'a pas de bon sens, tu comprends? Fait que je peux voir n'importe quoi. Mais c'est sûr que mes inspirations, quand j'ai commencé... quand on parle des Jon Stewart, le Daily Show, cet humour d'actualité-là de Late Show aux États-Unis, je trouvais ça le fun. Là. Ça réagissait à chaud, à des nouvelles qui venaient de se produire. Fait que ça, moi, ça m'a inspiré. C'est venu me rejoindre beaucoup. Fait que je pense qu'au début, c'est un peu ce que j'ai essayé de reproduire dans une certaine mesure. Puis peut-être que le complet venait de ça aussi. Là. Le Anchorman, là, le lecteur de nouvelles, il y avait quelque chose là-dedans. Puis plus ça va, je dirais que... maintenant, je consomme moins ça. Moi, je suis moins un gars de late show maintenant qui écoute les je préfère les on dit des specials, là, des spectacles où l'humoriste a un peu de recul sur... Tu sais, ça me dérange pas que tu parles d'actualité, mais je trouve ça le fun quand...
Qu'il y a une réflexion.
Ouais, c'est ça. Quand c'est l'actualité les enjeux sociaux de la dernière année, je trouve ça plus le fun que de taper sur la cible du jour. Ça me fait moins rire maintenant, ça. Fait que c'est pour ça que je pense que mon style a un peu évolué. Pour aller un peu plus vers ça. C'est un peu plus intemporel, mais je trouve que c'est plus le fun, un angle qui te surprend avec une analyse de la situation que juste « Hey, vous avez lu dans le journal ce matin, puis là, tu te fais un jeu de mots là-dessus. » Je fais comme « Ouais, ça, c'est un peu moins mon style. »
Ouais. L'humour engagé, est-ce que ça en prend absolument? Est-ce que les gens ont soif de cet humour-là? Ou une fois de temps en temps, c'est tellement que l'actualité est lourde, les gens ils essaient de s'éloigner justement de ce type d'humour-là?
C'est une bonne question, ça, parce que... C'est pas C'est pas le truc le plus vendeur de dire justement aux gens « Hey, à soir, je vais venir vous parler de, des sujets chauds de l'actualité là, tout de ouais. suite. » Parce que le monde, la semaine est fatigante, puis la vie est stressante. Oui. Fait que là, tu fais comme « Ça va-tu être une conférence là, le vendredi? Là? Tu vas-tu me parler des sujets sérieux?
Ben, » les gens veulent pas se faire la morale nécessairement quand aussi. Ils vont voir un show d'humour.
Il y a ça aussi, ouais. Mais l'humour engagé, là, c'est large. Comme, tu sais, les humoristes prennent de plus en plus position, là, tous les humoristes. Moi, ouais. à Montréal, je vois plein de plus jeunes de ma génération, des plus vieux aussi. Puis je pense qu'il y a de l'engagement dans le sérieux de ta démarche à faire de l'humour. Mais ça ne veut pas dire que tu parles d'actualité, que tu nommes ce dont tu parles. Mais il y a quand même une prise de position, une réflexion derrière. Moi, ça, je pense que ça plaît aux gens. Mm. Les gens aiment ça que... qu'il y ait un peu de protéines dans le spectacle qu'ils viennent voir. Mais après ouais. ça, chaque personne a ses goûts. Là. Il y a des gens qui vont plus être guinantelles parce qu'ils veulent vraiment beaucoup de protéines, puis d'autres un peu plus légers. Mais je pense que les gens ont envie que l'humour dise de quoi pareil. Là. Mais, peu importe ton opinion, puis où les gens se situent gauche-droite, je pense que les gens aiment ça, que ça dise de quoi pareil.
Ouais. Mais, tu sais, moi, j'en consomme de l'humour engagé, j'adore ça, mais c'est juste que j'ai l'impression que les plus jeunes des autres générations, parfois, sont extrêmement anxieux sur certains sujets de l'actualité. Je parlais avec, c'est drôle, là, 3 semaines ou 1 mois, j'avais un gars qui me donnait une entrevue, je me rappelle pas à quel sujet, mais je me souviens de son histoire, tu sais, puis il a commencé à jaser avec nous autres pendant la pause, on était sur Zoom à ce moment-là, puis on est tombé sur le sujet des enfants, il m'a demandé si j'avais des enfants, puis là j'ai dit, toi, t'as-tu des enfants? Il dit, non, je sais pas si je veux en avoir. L'environnement, pour moi, c'est important et tout ça. J'étais là, OK, là, il y a des gens qui, pour eux, l'environnement, c'est extrêmement important, puis le fait d'avoir des enfants, ils ont l'impression qu'ils vont nuire à l'environnement. Qui est-ce qui leur a mis ça dans la tête?
Ah, c'est une bonne question, mais toi, t'as quel âge?
C'est de la grande souffrance. Moi, je suis dans la quarantaine.
Moi aussi. Ouais. Fait que moi, je suis début quarantaine. T'as-tu des enfants?
J'en ai 2.
OK, moi aussi, 2 enfants.
Ça prend 30 secondes à faire, t'es pogné avec ça jusqu'à la fin de tes jours.
30 secondes à faire?
Ah oh, ouais. C'est... Ben, ça a été plus beau.
Moi, ça a été un bon 15-20 minutes. Là. Ouais.
Non, moi, ça a été plus beau 30 secondes qu'elle me dit. Là, ouais. de toute
quel âge qu'ils ont?
Mon plus vieux vient de célébrer ses 11 ans, puis mon autre, il a 8 ans. Okay. Puis honnêtement, on parle de l'actualité parce qu'eux autres, ça les intéresse, sont très allumés là-dessus. Mais j'essaie, là, quand ils me parlent d'environnement, j'essaie de leur montrer aussi le bon côté des choses, à quel point on peut faire des belles choses en récupération plutôt que de constamment dire que la Terre est en feu.
Ouais. Ben, je ne sais pas, cette génération, mes enfants sont juste un peu plus jeunes que ça, fait que c'est pas très loin. Je ne sais pas comment eux vont vieillir, mais j'ai des frères plus jeunes, moi, tu sais, parce que ma mère a eu d'autres enfants, puis j'en ai un de 27 ans, puis des fois, quand j'y parle de ce que tu décris, là, tu sais, l'avenir de la planète, je vois que ça le préoccupe différemment de nous, mais je peux pas nécessairement être dans le jugement de « ils ont grandi ». Avec un message médiatique qui est comme « c'est la fin des ressources bientôt, ça va-tu… » Tu sais, les changements climatiques, peu importe le degré à quel tu y crois, tu sais, j'y crois, mais est-ce que je suis catastrophiste? Pas nécessairement.
Non, mais à l'extrême, pas croire au changement climatique, c'est un peu débile.
Non, c'est ça.
Mais d'y croire au point de dire « faut que ça arrête là parce que sinon la Terre va exploser », c'est aussi débile.
Je pense que cette insécurité-là puis cette anxiété-là, cette génération-là, ils l'ont effectivement. Puis c'est intéressant de se demander pourquoi.
Ouais.
Mais tu sais, si j'avais... C'est un peu fou avoir des enfants, là, dans... Non, mais dans une époque où on nous dit... Là,
moi, j'ai plus fin de semaine, j'ai pas toi. Là.
Ouais, non, il y a... c'est sûr que ce côté-là, c'est prenant, mais dans le sens où, tu sais, on se dit, là... tu regardes aux États-Unis l'élection, là, puis c'est la dernière élection pour sauver l'Occident. T'sais, ils disent ça, là, tu sais. Ouais. Si tu votes... peu importe, les deux se disent ça. Là. Ils se renvoient la balle des deux côtés, là. C'est la dernière élection pour sauver l'Occident.
Donc, constamment dans les extrêmes.
Tu te mets dans la peau de quelqu'un de 25 ans qui dit « OK, moi, ma civilisation va tomber là, dans les prochaines années. Vas-tu avoir des enfants? » Je trouve ça triste là, qu'ils vivent là-dedans, mais je peux concevoir. Cela étant dit, je pense pas à eux quand je fais de l'humour parce que c'est pas mon public. Je parle beaucoup de paternité dans mon show. Je suis rendu à 40 ans des enfants. Fait, mon public cible, puis là, je veux pas me les mettre à dos là, s'ils nous entendent, mais... Moi, je dirais que plus c'est 30-50 ans. Là, c'est là que ça, eux, mettons que je pense quand je parle. Puis après ça, ça ratisse plus large, ça rejoint d'autres gens. Mais 30-50 ans, là, si tu viens de t'acheter une maison ou tu magasines une maison, tu as des enfants, tu vas pas mal. Je vais parler de choses qui vont te rejoindre. C'est pas mal. C'est super cliché à dire ça parce qu'on a tellement été longtemps à dire que les humoristes faisaient juste des jokes de ça. Mais comme moi, ça m'intéresse parler de thermopompe. Là, Mm-hmm. Moi, je l'assume, là. T'sais, on a ri des humoristes qui parlaient de ça. Là. Moi, ouais. J'étais en banlieue à Montréal, puis ma piscine en retard, il faut que je la ferme en fin de semaine. Là, pis, j'ai une thermopompe, les deux même. Ensuite, tu peux oser deux. Ça m'intéresse, là. Ah, si, j'aime ça. Je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais je suis un bonhomme, je suis rendu bonhomme un peu.
On le devient tout avec l'âge, ouais. Nécessairement. C'est juste que ça nous prend des blondes qui nous le disent, qu'on est rendu bonhomme pour ouais. Qu'on puisse avoir un juste équilibre. Ton nouveau show, ça s'appelle Mâle Alpha. Tu as choisi ça comment?
Le titre, il se veut un clin d'œil humoristique, dans le sens que je voulais attirer l'attention, je voulais un titre qui marque, parce que j'aurais pu parler... Je savais que le spectacle allait tourner autour de la masculinité, pas parler que de ça, mais qu'il allait quand même tourner autour de ça quand j'étais dans la création. Fait que je cherchais un titre qui allait témoigner de ça, mais tu sais, j'étais pas pour aller dans comme l'homme, la crise de la masculinité, ouais. C'est trop sérieux, c'est trop académique, fait que on cherchait un titre qui allait susciter de l'attention, puis Mâle Alpha, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, dès que je le dis... Ça suscite une réaction. Fait que c'est un bon titre.
OK. Donc, tu t'es pas pris en exemple.
Non, même qu'au début, la première version du titre, il y avait un point d'interrogation à la fin. C'était Mâle Alpha. Mais non, je suis pas Mâle Alpha dans la façon dont on se l'imagine souvent, là, l'archétype qu'on peut dire. Mais je suis pas totalement l'inverse non plus. Je veux dire, je suis pas...
Tu t'inquiètes-tu de la masculinité? Où est-ce qu'on en est rendu maintenant? Parce que l'homme a dominé le monde pendant des années et des années. Puis dans les dernières décennies, heureusement, il y a des femmes qui se sont, les suffragettes se sont battues pour avoir l'égalité homme-femme. Ces femmes-là en ont mangé des claques là, en arrière de la tête.
C'est
épouvantable. Ouais. Aujourd'hui, je considère qu'au Québec, il y a peut-être des endroits où c'est un petit peu plus difficile, mais au Québec, en général, on laisse la place à la femme. Puis c'est pas quelque chose qui leur est dû, c'est quelque chose qui est normal. On la considère comme notre égale.
Oui, oui. On est probablement dans les meilleures sociétés dans le monde, puis on le répète pas assez, ouais. Mais il y a encore des progrès à faire. Là. Moi, j'ai beaucoup d'amis-filles, puis j'entends leurs doléances, puis les affaires. Ils me témoignent de des affaires, puis je fais comme « Ah, ben ouais, t'sais, ça met en colère. » Mais si tu me demandes est-ce que je m'inquiète pour les gars aussi, ben le mot « aussi » est important. Oui, tu sais. Oui, c'est pour ça que ce spectacle-là, j'ai commencé à le créer. C'est dans le sens où j'avais eu 40 ans, j'ai eu des gars autour de moi qui se séparaient, des quêtes de identitaires, de travail, de parentalité, où se retrouver dans tout ça. Puis je le spécifie toujours parce que je pense que c'est important, ça invalide aucune lutte et cause des femmes. C'est pas pour prendre la place de ce terrain-là, tu sais, dans le sens qu'il y a encore des combats à faire pour les femmes, mais je pense qu'on peut aussi... dans ce spectre médiatique-là et de prise de parole, regardez un petit peu plus les gars qu'on a peut-être oubliés dans la dernière décennie, mettons, là, on a mis un peu de côté les problématiques des gars parce que je pense que c'était comme une question de chacun son tour, mais j'aimerais ça qu'on sorte de cette espèce d'opposition-là de chacun son tour. On peut faire plusieurs choses en même temps, t'sais. On peut continuer à parler des problèmes que les femmes vivent et des hommes aussi. C'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes problématiques, c'est peut-être pas les mêmes mécaniques de la société, mais sans être inquiet pour tous les hommes, j'ai côtoyé assez de gars dernièrement pour dire qu'il y en a qui vont pas bien, puis ça m'a interpellé, ouais.
Est-ce que on a laissé trop de place aux extrémistes, autant d'un bord comme de l'autre? Tu sais, moi, je regarde ceux qui sont pris en modèle là, actuellement là, sur la Terre, les Tates de ce monde.
Ouais,
je veux dire, je voudrais pas que mes gars écoutent ce gars-là à 150%. Y a-tu des affaires, tu sais, quand il parle d'entraînement, tout ça, l'importance de bien traiter son corps, ça peut être pertinent, mais moi, c'est les autres commentaires qui viennent avec. Hein, tu sais, en agissant d'une façon épouvantable avec les femmes, je veux dire, j'aimerais pas, j'essaie d'être un modèle pour mes gars. Moi, je suis séparé, puis je me dis, ben, mes gars vont traiter leur conjoint de la façon dont moi, je vais traiter leur mère. Mm-hmm. Fait que leur mère est ma meilleure amie. Moi et leur mère, on s'entend comme deux larrons à foire. On était 16 ans ensemble, on se parle encore à tous les jours. Mm. Puis quand Tate arrive, je me dis tout le temps, hey, ce gars-là, vas-tu rejoindre mes enfants? T'sais, j'essaye justement de m'éloigner de ce modèle-là.
C'est épeurant un peu, hein, l'idée de... je ne sais pas si tu as vu mon entrevue à Tout le monde en parle la semaine passée, j'en avais un peu abordé ça parce que justement, moi c'est quand me suis rendu compte qu'il y a des gars dans mon entourage et plus jeunes aussi qui écoutaient ces vidéos-là, puis je me suis interpellé sur pourquoi, parce que c'est pas des méchants gars, là, dans le sens que c'est pas le radical qu'on peut imaginer, le misogyne qui haït les femmes, là, j'ai des amis qui écoutent ça, puis je fais comme... Mais pourquoi t'écoutes ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu vu, là? Il est accusé de proxénétisme. Bon, il y a un procès, peut-être qu'il ne sera pas coupable, je sais pas, mais il y a assez de fait. Il dit des choses horribles pour qu'on puisse statuer que c'est pas une bonne personne, Andrew Tate. Puis là, j'ai des amis qui font comme « Oui, oui, je sais ça, puis je le condamne, puis je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, tu sais. » Mais ce que tu viens de dire, tu sais, prendre soin de son corps, l'entraînement, lance-toi en affaires, sois un peu plus indépendant, un peu de courage, tout. Il dit ça, on l'entend nulle part ailleurs, puis ça m'a rejoint, tu sais, puis je trouve que c'est le fun, tu sais. Fait qu'ils sont capables de mettre de côté l'aspect toxique de cette conversation-là pour retenir les choses qui leur plaient un peu plus. Mais je trouve ça plate qu'ils se sentent obligés d'aller vers ça parce qu'ils ne l'entendent pas ailleurs, ce discours-là. Puis je suis pas sûr que ce que je dis en ce moment, c'est nécessairement la vérité. Là, tu comprends? Mais j'ai l'impression que c'est ça. On a arrêté de parler un peu à ces gars-là qui sont des fois des modèles un peu plus traditionnels de la masculinité, puis on leur parle plus parce que c'est pas ça qui est mis de l'avant. Moi, je correspond pas à ce modèle-là, mais je le condamne pas non plus. T'sais. Moi, je suis un intellectuel un petit peu nerd de Montréal, ok, mais ça me dérange pas que tu sois un gars de bois puis que tu sois aussi tu tripes sa mécanique. Puis je pense qu'on a snobé un peu ça pendant longtemps, ce style-là, comme si c'était passé. Genre, soyez plus ça, mais non, ils ont le droit d'être ça encore. T'sais. Puis à cause que dans les médias, on a un peu arrêté de parler à ces gars-là. Je parle plus Montréal, OK? Parce qu'à Québec, je pense que vous avez peut-être un écosystème un peu différent, surtout à la radio, mais on les a peut-être un peu abandonnés, fait qu'ils sont allés chercher leur information ailleurs, puis là, ils tombent sur des Andrew Tate, puis je pense que ça, c'est un problème.
Okay. Oui, effectivement. Effectivement, quand ils arrivent avec ces histoires, ça peut faire peur, surtout quand c'est pas le modèle que tu veux donner à tes enfants. Hey, si Andrew Tate n'était pas aussi extrémiste, est-ce qu'il serait aussi connu? Est-ce qu'il serait aussi écouté? Parce que j'ai l'impression que ça contribue à la médiatisation de l'individu. Là. Ben puis au même titre que Gilles Proulx, dans le temps à Montréal, à la radio, tu sais, il y avait des choses qu'il disait qui avaient bien du sens. Puis des fois, tu disais, tabarouette, il est rendu complètement sur une autre planète. Il est en train de crier
encore,
après ses
encore,
employés.
Pas juste autrefois, encore. Oh, il est encore là.
Mais on l'entend de moins en moins. Mais
nous, on l'a encore. C'est
il
juste...
crie après ses collègues et tout ça. Mais tu sais, il y avait une certaine attraction, il y avait une certaine médiatisation d'un Gilles Proulx, ce qui faisait en sorte que quand il te parlait d'histoire, waouh, tu sais, Gilles Proulx en histoire, c'est un féru d'histoire. Ouais. C'est un amoureux du Québec, c'est un amoureux de la langue française. Fait que les gens étaient capables aussi de dire « OK, ben Gilles Proulx, il y a des très gros défauts, mais il y a aussi des maudites belles qualités. » Mais s'il avait juste été comme moi, mettons, là, relax et tout ça, tu penses-tu que...
Non, c'est sûr que non.
Non,
ben non, mais je pense que c'est le génie d'Andrew Tate. Puis là, je parle pas à titre d'expert, je veux pas tant analyser ce gars-là. T'sais. J'ai lu des articles, je l'ai vu passer un peu, mais je suis pas...
Trump serait-tu aussi populaire si c'était pas Trump Inc.?
Ben non, c'est sûr que ces gens-là bénéficient de l'économie de l'attention, ou je sais pas, tu sais, les réseaux sociaux, les algorithmes, là. Si tu te déranges pas en ce moment, tu vas passer dans le beurre, là, parce que si t'es un peu trop beige, puis c'est pas tant négatif là, d'être beige, être modéré, mettons, beige, c'est négatif. Si t'es modéré, tu passes dans le beurre maintenant. Fait que t'as raison, là, qu'il faut qu'il dérange pour attirer un peu de monde, puis probablement qu'eux, ils se le disent que hey, ces énormités-là, c'est justement fait pour les ramener vers moi, mais après ça, je dis autre chose. Mais sauf que il y a du monde qui, à force d'entendre les énormités, ils finissent par les normaliser quand même. Là. Parce que quand, pas tout le monde, là, mais le monde qui écoute du Andrew Tate ou du Trump à répétition, ils finissent par trouver normal certaines affaires que tu fais comme « Hey, attends un peu, là, on remonte il y a 10 ans. » T'aurais entendu ça, t'aurais « Cabre des bérettes » puis t'es rendu normal.
Mais je pense que la majorité des gens sont capables de se faire à l'idée que des fois, il l'échappe solide, le monsieur, là.
Ben, j'ose croire que oui, parce que je pense qu'encore là, je fais attention de ne pas condamner tous les gens qui soit écoutent quelque chose ou votent pour quelqu'un, parce que c'est ça qui est le fun de vieillir un peu aussi, hein, parce que j'aurais pas eu le même discours il y a 10 ans. T'sais, à 30 ans, là, t'as tes certitudes, t'es rigide, t'es arrêté sur tes opinions, puis même t'arrives à 40, là, puis t'as des beaux frères, t'as des beaux pères, puis là, tu jases avec ton monde, puis tu te rends compte que tout le monde pense pas pareil, puis ils sont pas nécessairement des mauvaises personnes pour autant. Fait que ça, moi... C'est peut-être la seule affaire que j'aime de vieillir, cette espèce de nuance et cette compréhension des autres qui arrivent en vieillissant. Ça, j'aime ça. Le reste, vieillir, c'est horrible.
C'est ça. Des fois, tu es drastique dans tes opinions, puis là, tu rencontres quelqu'un qui est comme 50 nuances de gris. Oui, mais tu sais, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose. Tu sais, je parlais ce matin, c'est arrivé avec ma collègue Élodie, je parlais de quelque chose qui est arrivé dans une station de radio de Montréal où un gars...
Vas-tu dire laquelle ou tu peux pas dire laquelle?
98.5, okay, je peux le dire. On n'a pas de joint, on est à Québec.
OK, c'est bon.
Ils nous écoutent pas, Montréal!
Il y en a un qui vous écoute, un bon ami à moi.
Jérémy Filosa a dit... Bon, ben moi, avec tout ce que je sais là, des dernières années, moi, j'ai l'impression que les Américains ont jamais été sur la Lune. Tu sais quoi? c'est une méconnaissance, là. OK? Puis
oh, c'est drôle, c'est,
il
ça.
A émis, c'est... Il a émis sa croyance, parce qu'il peut pas, ça peut pas, c'est pas, il y a rien de factuel là, dans ce qu'il nous disait. Il a émis sa croyance, puis on a, en tout cas, moi, j'ai peur qu'il perde sa job. Jérémy Filosa, je l'aime bien.
Je souhaite pas de perdre sa job. Moi, je suis pas un gros fan de sport, là, tu sais, ouais. Carte sur table, tu sais, puis je suis pas un gros fan de subventions publiques aux Kings, puis au golf à Montréal, puis un stade de baseball. Je suis pas un gros fan de ça. Fait que moi, ouais. Si tu me dis mon opinion de Filosa, qui a l'air d'un gars, bon gars, mais que je connais pas personnellement, je suis plus fâché quand il défend les Kings à Québec que quand il dit que la Lune, on y est jamais ouais. Été dessus.
Mais tu sais, ça aurait été une belle occasion.
Mais à mes yeux, il mérite pas de perdre sa job pour ça. Mais tu trouves pas ça? Ah, oh, attends un peu. On plonge un peu deux secondes là-dedans. Là. Tu sais, moi, ça me dérange pas tant que ça que tu crois pas qu'on soit laissé à la Lune parce que bof, peut-être qu'il serait pas prêt à la défendre jusqu'au sang, cette croyance-là, mais quand même. Mais qui est trouvé que c'était la chose à dire à ce moment-là, c'est drôle en tabarouette, non?
Oui, ben, il demandait s'il était lunosensible.
Ouais, ça c'est. Okay. Ben, c'est parce que c'était une discussion qui s'enlignait pour parler de l'astrologie qui est aussi niaiseux, soit dit en passant, que de ne pas croire ça.
L'astronomie ou l'astrologie? L'astrologie.
Non, okay. C'était l'astrologie. Okay. Je pense que la discussion tournait autour de l'astrologie. Puis. Excuse-moi, mais c'est parce que je trouve ça drôle qu'on mentionne en ondes comme hey, toi, la Lune, trouves-tu qu'elle a une influence sur toi? Puis il fait comme. Moi, je pense pas qu'on est allé dessus. J'étais comme « Wow!
» Il y a un step supplémentaire.
Ah ouais, pourquoi mais, tu fais ça?
Tu sais, moi, je voudrais pas dire aux autres comment gérer leur job, mais moi, si tu m'avais sorti une affaire comme ça en entrevue, wow, quelle belle porte, d'ouverture pour faire un peu de pédagogie. Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu sais, qu'est-ce que t'as lu, où est-ce que t'as lu ça qui t'a dit que les Américains sont jamais allés sur la Lune vers la fin des années 60?
Je pense que ça, c'est la flexibilité de la radio. On en parlait juste un peu avant de rentrer en onde, là. De la radio de Québec où vous avez un peu plus de lousse par rapport à votre temps. Mais là, je me mets dans la peau de Philippe Quentin qui voit le compteur qui dit « Allez, pause dans 47 secondes » parce que nous, on pensait juste parler de l'astrologie. Puis là, il dit « On n'est pas allé sur la Lune. » Fait comme « Pardon, philosophe. » Puis là, « On va à la pause. » Puis là, c'est comme une pub de char après.
C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui sont sorties pendant la pandémie. Moi, je travaillais pour une station de radio qui était très engagée, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait des auditeurs qui nous écrivaient une fois de temps en temps pour nous dire « Les gouvernements nous mentent, la Terre n'est pas ronde. Là, moi, je lis ça, je me dis « Sacrement, qu'est-ce que c'est ça? »
Puis
la Terre n'est pas ronde, après ça, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, après ça, 9-11, c'est un inside job. Je veux dire, la pandémie a fait des dommages, puis je ne sais pas pourquoi que les gens ont commencé à tomber sur ce type de site-là, peut-être en raison des algorithmes qui nous... les algorithmes te mettent dans un couloir tout seul avec les gens qui pensent un peu comme toi, puis là, tu te mets de plus en plus profond dans ce fameux couloir-là, puis à un moment donné, tu viens qu'à croire à peu près n'importe quoi. Mais pour en revenir à Jérémy Filosa, il y a des gens qui pensent ça, que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Puis je pense que Philippe Quentin a assez de connaissances générales pour dire, ben savez-vous quoi, c'est le contexte géopolitique de l'époque faisait en sorte que les États-Unis puis la Russie étaient, c'est l'Union soviétique, étaient en guerre, ne s'aimaient vraiment pas. Puis ce qu'ils voulaient, c'était celui-là qui allait se rendre le plus loin dans l'espace.
Oui, parce que Jérémy a dit, pourquoi on n'y est pas retourné? Ben parce qu'on n'a rien à faire là. Il n'y a rien, ben, c'est plate. C'est pour ça qu'on n'est pas retourné.
Il y a ça, mais il y a une barrière de radiation quand tu quittes la Terre. Il y a une barrière de radiation quand tu t'en vas vers la Lune qui est Val Allen. Barrière de Val Allen, je pense. Je pense
que pareil, c'est comme ça s'appelle.
Mais les astronautes sont irradiés. Puis c'est pas nécessairement
c'est pas bon
pour
la santé.
Non, c'est ce qu'ils ont dit. Là,
Se peut. Mais tu sais.
Quand ils vont pour le nucléaire, je pense qu'ils se mettent des soutes là, pour pas être.
J'ai une pensée. Moi, c'est ça. C'est fascinant, ça. Parce que tu sais, c'est une bévue. Mettons qu'on appelle ça une bévue. Là. Puis j'ai une pensée, des fois, je dis pas que c'est pas grave là, de dire ça, puis que ça, parce que là, après ça, tu vois les gens commenter, puis ça fout un peu le trouble. Mais moi, j'ai une pensée pour le week-end de mardi qui a dû se taper. Là, parce que c'est pas le fun de devenir la tête de Turc du moment. Tu sais, je sais pas, peut-être qu'il aurait pu juste se revenir le lendemain et dire « Hey, hier, là, c'est un peu une nose que j'ai dit, là, puis garde, OK, on continue. » Mais là, en tout cas, moi, quand tout le monde se décide de taper sur une personne... Ouais. Là, puis je l'ai déjà fait par le passé, puis on a tous... c'est facile sur Internet de dire « quel imbécile ». On écrit des affaires impulsives sur Internet, puis je pense que j'ai été la cible, moi aussi, de cette affaire-là à certains moments, fait que ça m'a appris un peu les deux côtés. Puis j'ai beaucoup d'empathie maintenant pour ces gens-là qui doivent être passés 2-3 jours de marde. C'est pas le fun.
Oh, c'est clair. Fun. Dans son cas, lui, c'est ça. Mais il y a des gens qui pensent comme cet individu-là. Puis il aurait juste dû faire un peu de pédagogie pour remettre ça.
Je pense qu'il y aurait eu
place,
des façons.
Hey, c'est ton collègue de travail. Là. Moi, tu me fais ça ici.
Ah, mais il a essayé de le protéger. Il a lancé des perches. Là. Il a essayé, mais c'est... je sais pas. Je sais pas comment réagir à ça. Moi, je trouve juste que. Ah, je sais pas. Peut-être que le lendemain. Suspendez-le pas tout de suite. Je peux pas dire quoi faire au Canada 5 en passant. Puis je collabore à l'occasion, j'y reçois en entrevue, ils sont super gentils avec moi, là, tu sais. Mais je sais pas, le lendemain, là, tu t'assois, tu fais comme, hey, hier, c'était quelque chose, hein? Tu sais, puis on s'en reparle. Puis là, tu fais comme, pourquoi Jérémy? Puis je sais pas, soyez transparent. Ouais. Parlez-nous ça plutôt que de le mettre de côté, puis on anime l'émission comme s'il n'y avait jamais eu de sport à cette émission-là, puis on continue.
Bref, lui, ça doit pas être tenté pantoute de revenir à l'antenne dans les prochains jours.
Bah, la tempête va se calmer aussi.
Là, on verra ce qui arrivera, mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est pour la liberté d'expression pour vous autres à Montréal. Y a-t-il des choses que les humoristes ou que les gens qui sont dans les médias des fois disent? Tu sais quoi? M'a passé mon tour sur ce sujet-là. Parce
plein
que vous,
choses.
Veux pas, on vous demande tout le temps, hey, tu penses quoi de ci? Tu penses quoi de ça? Je veux dire, fois, tu dois te dire, hey, c'est quoi? J'y pense juste pas. Ça m'intéresse juste pas, ce sujet-là.
Moi, je m'adonne à avoir des opinions qui vont quand même bien dans l'air du temps, là, comme woke modéré. Vu que je suis un woke modéré, je fais quand même bien dans cet écosystème-là. Je vais pas me mettre dans le trouble en parlant des LGBT ou des trans ou des drag queens, parce que c'est toutes des affaires avec lesquelles j'ai pas de problème. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est pas ça. Mais mon terrain miné, il est pas de ce côté-là, moi, là, tu sais. Mais il y a de l'autocensure, puis je sais pas si c'est Montréalais particulièrement, mais tu pourrais être surpris. Sur quoi je m'auto-censure, dans le sens que c'est quoi, moi, le trouble qui va m'amener? Là, je suis rendu, j'ai refait des ponts là, avec, mettons, Sophie Durocher puis Richard Martineau, parce qu'on a collaboré ensemble sur certains projets, fait que je dirais qu'on n'est pas des amis, mais il y a une trêve. T'sais, on va pas, chacun de notre bord, on va pas parler de l'autre, puis quand on se croise, on a des rapports cordiaux. T'sais. Mais moi, comme humoriste de gauche, modéré, je le répète, là. Je veux pas faire peur à tout le monde, puis je veux vendre des billets. Hein. Je suis ici pour vendre des billets à Québec. Fait que...
Mais t'as pas besoin d'en vendre, tes spectacles là, sont complets. Là. Le 16 janvier, par exemple, on va pouvoir aller le voir.
J'ai une supplémentaire.
T'as la salle à Rousseau.
Ouais. Mais tu sais, je veux dire, moi, je parlerai plus de souveraineté, je parlerai plus du PQ, je parlerai plus. Il y a des aspects identitaires je dirai plus sur Twitter. Ça amène ben trop de troubles en ce moment. Fait que tu sais, c'est pas ceux qui vont me rentrer dedans, là, c'est pas nécessairement ceux qu'on pense. Je comprends là, que ça se peut qu'il y ait des woke ou des féministes qui aient critiqué des gars qui ont dérapé, mais moi, je vis de l'autre bord. Là.
Ouais.
Moi, si je dis quelque chose sur le voile positif ou puis peu importe mes opinions ou les musulmans, là, ça peut être Québécois qui me saute dessus. Là. Fait que tu comprends le terrain, ma lecture, là, c'est que le terrain, il est miné à plusieurs niveaux, chaque personne pour des raisons différentes. Mais si tu me demandes, moi, j'adhère pas au fait qu'on peut plus rien dire, mais l'économie de l'attention, puis de la business, puis les sites de clickbait, puis les réseaux sociaux, puis tout ça, fait que oui, si tu dis quelque chose, la marde pogne vite en ce moment. Puis tu peux passer un 48 heures tough. Fait que je pense que tout le monde dans les médias, probablement à Québec, probablement partout, le citoyen lambda aussi sur Facebook, Twitter, on vit une époque où ce que beaucoup de monde parle, il y a beaucoup de bruit, puis tu peux te mettre dans le trouble facilement.
Puis l'utilisation des mots aussi, on fait vraiment attention à ce qu'on dit. Puis même des fois, on déforme totalement la réalité. Là. T'as entendu parler de l'école à Bedford?
Oui.
Où des islamistes radicaux sont professeurs, puis ils enseignent leur façon de faire aux enfants et tout ça. Puis il y avait une autre gang qui était moins nombreuse, qui dénonçait ça à même l'école. Là, c'est plus des islamistes radicaux, ils se sont transformés en maghrébins conservateurs.
C'est possible.
ça a été le vocabulaire employé les dernières heures. J'ai quoi, t'as peu? Islamistes radicaux, là, on est rendu maghrébins conservateurs. Non, c'est pas ça. C'est des islamistes radicaux. Là.
Oui, tu sais, puis c'est plate de pas pouvoir dire ou nommer les choses comme il faut des fois. Puis probablement, là, cette histoire-là, là, c'est la convergence de plusieurs affaires. Tu sais, il y a une convergence d'incompétence bureaucratique. Là, ouais. Parce que ça peut arriver dans d'autres écoles aussi, des fois. Là, mais il y a aussi, très certainement, une couche d'autocensure par rapport au fait que ça soit des musulmans, puis la peur d'avoir l'air raciste, ça a dû jouer dans tout ça. T'sais. Fait que là, c'est une belle bombe à jeter dans les médias en ce moment.
C'est ça.
Puis je trouve ça plate qu'on puisse pas dire « Hey, ces radicaux-là, c'est non, on fait pas ça. » Je trouve ça plate qu'on puisse pas le dire textuellement comme ça. Mais... quand tu lis les commentaires en dessous puis la réaction des gens, force est d'admettre que des fois, il faut faire attention parce que le racisme, il ressort vite en tabarouette, mm-hmm. t'sais, parce que là, c'est vite qu'on est envahis, ils sont tous de même les musulmans, tu fais comme « Hey, gang, là! » 11 profs-là qui sont problématiques, qu'on aurait dû congédier il y a 5 ans.
Ça détermine pas le reste des professeurs non. qui sont maghrébins.
Tu sais, c'est comme choisis ton poison, choisis ouais. ta gang. Ah, c'est pas le fun, ça. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais puis oui, on est rendu à faire attention aux mots pour pas que ça soit interprété par quelle gang, tout, puis je trouve ça plate, mais en même temps, ça arrive, tu sais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis content des fois de pas... Tu vois, j'ai pas écrit là-dessus.
Mais vous surfez bien. Moi, je trouve que vous surfez bien parce que, tu sais, dans ton cas, toi, il n'y a pas eu grand scandale. Là. Fait que tu es capable de t'adapter.
Quelques petits scandales, mais pas tant que ça. Je suis pas si controversé que ça, ouais. mais je me considère chanceux. Je touche tout ce qu'il y a de bois dans ta place.
Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est un sujet ouais. qui est peut-être sensible. Tu es peut-être tanné d'en parler, mais tu as découvert assez tard que tu étais Asperger.
Ouais.
Moi, il y a de ça quelques années, on parlait justement avec un enfant qui était Asperger, puis l'enfant nous parlait un peu de sa vie, son père. Était là aussi avec nous autres, puis j'ai appris que c'est un auditeur de longue date. Fait que pendant la pause, on jasait, puis il dit, tu sais, Yann, mon gars, il est Asperger. Puis il dit, le jour où j'ai su que mon gars est Asperger, le médecin s'est reviré vers moi, puis il a dit, vous allez passer des tests, vous mm-hmm. aussi. Puis mm-hmm. il a su, près de la cinquantaine, qu'il était Asperger, Louis. Mm. Et il dit, quand je l'ai su, là, ça a été une libération.
Ouais.
Parce que toute ma vie, je me suis posé des questions pourquoi, sur ma façon d'agir, pourquoi les gens me considéraient tout le temps comme différemment, comme différent. Puis, pour donner un exemple, là, il m'avait raconté cette histoire-là par la suite au cellulaire. Il m'avait dit, Yann, quand mes invités à la maison quittaient pour dire, bon, ben nous autres, on va y aller, je les accompagnais pas jusqu'à la porte. C'est un homme d'affaires. Il s'en allait travailler dans son bureau, mais les gens étaient encore assis à table. Oh ouais. Fait que là, Sablon disait, tu sais, les normes sociales, c'est d'attendre mm. qu'ils se lèvent. Là, tu les accompagnes jusqu'à la porte. On se serre la main, merci, moi, puis on s'en va.
Ah, moi, je peux aller partir dans mon bureau bien avant qu'ils disent qu'ils partent, là. Moi, je m'en vais dans ma chambre sur mon iPad quand ouais. il y a encore de la visite chez nous.
Ça t'a-tu libéré, toi?
Ah oui. Hey, moi, tu sais, ma gérante est là à côté de moi ici, là, à m'accompagner, puis elle peut probablement témoigner de mon progrès. T'sais, pour faire une histoire courte, c'est ça. Ça fait près de 10 ans que j'ai reçu mon diagnostic. Puis je suis allé le chercher parce que justement, je vivais des difficultés professionnelles et personnelles et ouais. relationnelles. Puis j'étais comme, il y a de quoi qui va pas. Là. Tout le monde font comme, c'est quoi ton esti de problème? Pardon, je sais pas si on peut sacrer à Québec. Oui. À, OK, je vais le refaire d'ici à la fin de bord. Mais tu sais, c'était rendu difficile. Puis là, quand j'ai reçu mon diagnostic, oui, il y a eu un soulagement parce que c'est comme, OK, je suis pas fou, je comprends qu'est-ce qui se passe. Puis moi, c'est le message que j'envoie à tout le monde après, autant pour les enfants que les plus jeunes, les plus vieux. Ça devient avec un coffre à outils. Tu te fais comme, OK, ça, je suis moins bon pour faire ça. Ça peut être des forces. M'a travailler un peu là-dessus, m'a comprendre mes limites. C'est-à-dire que, tu sais, je vais pas aller me mettre tout le temps dans des situations où c'est plus difficile pour moi si j'ai pas l'énergie puis que c'est pas naturel chez moi puis ça m'épuise. T'sais. Fait que tout cet apprentissage-là fait que aujourd'hui. Bien des gens me rencontrent là, près de 10 ans plus tard puis font comme « Mais là, t'es pas autiste. » Ben, je te confirme que je l'étais plus avant. Je le suis moins, j'ai l'impression, aujourd'hui parce que ça m'a enlevé un poids ses épaules.
Ben ouais.
C'est moins épuisant de ne pas avoir à correspondre tout le temps aux normes puis de l'accepter. Puis les gens me voient différemment aussi. Ils sont plus tolérants aussi envers certaines de mes affaires. Fait que moi, j'adhère pas à ceux qui, même si ça se peut qu'il y ait une dérive de trop de diagnostic, le surdiagnostic, c'est pas un... Je veux pas nier que ça existe. Ça existe, les surdiagnostics, mais si vous avez des doutes, allez-y voir, puis ça peut vous aider pareil. Moi, ça m'a aidé énormément. Ma blonde peut en témoigner aussi comment je suis devenu une personne moins rigide, plus agréable depuis que j'ai mon diagnostic, parce que je bats plus... Je me combats plus contre ma propre nature, je l'accepte un peu plus, puis ça me rend plus normal. Ouais. Fait que...
Est-ce que ta conjointe avait remarqué qu'il y avait de quoi des fois qui ne fonctionnait pas avec Louis T?
Ben oui. Ouais. Ma conjointe, elle me trouvait bizarre. J'ai des qualités qui compensaient, je pense, dans une certaine mesure, mais on avait des frictions.
Tu faisais l'amour plus que 20 minutes.
Oui, il y a ça. T'sais.
C'est un avantage.
c'est peut-être pas ma qualité. Ouais, je dirais peut-être pas ça. Mais oui, même dans le couple, il y avait des difficultés, tu sais, puis on commençait à avoir pas des conflits, mais tu sais, pourquoi tu fais ça? Puis elle était fâchée des fois de certaines situations. Fait que le diagnostic est venu expliquer ça, mais moi, j'y ai dit, c'était important, là, parce que c'est la première chose qu'elle a dit. Quand j'ai reçu mon diagnostic, elle m'a regardé, puis elle a dit, là, ça va pas devenir une excuse pour pas t'améliorer, là, pour pas changer puis rester de même. Là. Puis j'y ai promis, non, je vais continuer à faire des efforts puis à travailler, t'sais. Puis ça a porté fruit. Ouais. Fait que je sais pas si ça peut donner espoir aux conjointes de ce qu'on entend, parce que moi, je reçois plus de messages de conjointes que de gars. Okay? C'est des conjointes qui m'écrivent puis elles disent. Ils diagnostiquent leur chum bien avant que le chum soit prêt à accepter puis ce diagnostic-là ou à comprendre. T'sais. Fait que bien des filles font comme « Mon chum, là, il est autiste. Il veut pas aller se faire tester. Il est de même. Qu'est-ce que je pourrais faire? » Puis là, je leur donne des petits trucs. Mais somme toute, j'ai tellement de beaux témoignages d'adultes de 50, 60... Et jamais trop tard en passant. 72 ans, un monsieur qui m'écrit. Il dit « Je suis allé. » J'ai dit « J'ai tout compris mon passé. » Puis ça lui a permis de vivre en paix avec un passé puis rochant. Là. Ça a été difficile, sa vie. Là, à 72 ans, il faut comprendre qu'à 20-30 ans... Là, il n'y avait pas ces diagnostics-là, ça n'existait même pas, tu sais, fait que... Mais non, moi, je trouve ça super le fun quand j'entends parler de des gens comme ça.
Des hommes ou femmes Asperger, humoristes, il en existe pratiquement pas.
Oh non, si tu savais.
Ah oui, il y en a plus qu'on pense.
Ah, crime! Là, je te les nommerai pas parce que ce serait... tu forces pas des coming out, là, mais...
Attends, j'ai mon bagage de préjugés ici.
Deux choses.
On me dit que les Asperger comprenaient pas toujours l'ironie puis le sarcasme. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est un spectre, l'autisme. Hein? Puis, tu sais, il y a de l'autisme avec haut niveau, il y a de l'autisme qui est sur le bas. Tu sais, moi, je te mentirais pas. Là, si on faisait un spectre de gravité là, tu sais, ou de sévérité, là,
ouais.
Je suis pas dans les cas les plus sévères. Là, tu sais, tu comprends? Je comprends l'ironie, je comprends. Peut-être moins quand j'étais plus jeune, mais tu sais, je me suis outillé puis j'ai appris. Mais c'est vrai que théoriquement, les Asperger ou les autistes comprennent pas l'humour. Ils disent ça, c'est pas vrai. J'en ai côtoyé même des jeunes, ils comprennent. Des fois, c'est un peu différent, mais ils comprennent. Mais on est un milieu atypique où tout le milieu des arts, il y a plus de TDAH, il y a plus probablement de douance, il y a plus d'Asperger, il y a plus de tout. Parce que c'est des milieux atypiques un peu fucked up qui attirent les gens qui peuvent pas avoir une vie normale. Fait que tu sais, je pense que des chanteurs, tout ça, il y a une plus grosse propension. Mais... je les nommerai pas, mais il y en a une couple d'autres. Je suis pas tout seul dans le milieu.
Tes parents, quand tu as eu ce diagnostic-là, ça leur a-tu éclairé sur des affaires aussi?
Oui, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était très dans l'ouverture, tu sais, où chaque enfant, on est un peu tout particulier dans la famille, puis chaque enfant a dit « Moi, je vous ai accepté comme vous étiez. » Puis quand il y a du monde qui faisait comme « Hey, ton enfant, c'est pas normal qu'il fasse ça. » Elle fait comme « Mon enfant, il fait ce qu'il veut. »
C'est une mère.
Ouais, c'est ça.
Touche pas mon enfant.
Ouais, fait que je pense qu'elle, elle s'est jamais posé ces questions-là. Elle nous a tout accepté avec nos différences. Mais quand j'ai appris le diagnostic, ça l'a un peu confronté parce que je sais pas si elle se voyait comme « J'ai-tu échoué dans quelque chose? Comment ça se fait que moi, je peux aller le chercher plus tôt? J'ai-tu fait la bonne affaire? » Mais je l'ai rassuré rapidement. Là, moi, j'ai eu une belle enfance, puis c'est pas un enjeu par rapport à ça. Puis sinon, maintenant, ben j'ai le droit à Noël de quitter quand je veux la table.
Ah, de profiter! Yes!
Mon diagnostic,
mon fait. On t'a dit de pas en profiter.
Ouais, c'est ça.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Louis T. Il va être encore avec nous pour à peu près 10 minutes. On va faire une courte pause et on vient tout de suite. Louis T. qui sera de passage à Québec le 16 janvier prochain à la salle Albert Rousseau. C'est une belle salle, ça, la salle Albert Rousseau?
Ça va être la première fois que je la fais pour mon one-man show de ma vie, mais je l'ai fait en première partie d'autres humoristes, puis c'est une incroyable salle. C'est incroyable.
C'est une belle crowd. Il y a une belle crowd d'humour au Québec quand même.
Québec.
Ouais.
À Québec. Au Québec, oui, mais à Québec, là, j'ai l'impression des fois d'être licheux.
Licheux.
Mais non, Québec, c'est un gros. Tu sais, en proportion, là, tu sais, par rapport à votre population, là, c'est un énorme marché d'humour là, dans le Québec. Là. C'est ici qu'on revient le plus souvent. Savant, vous riez, vous êtes généreux, vous êtes le fun, ouvert. Vraiment un bon public, ouais. Québec.
Est-ce que tu entretiens ton public pendant ton spectacle? Sors-tu de ton spectacle pour jaser avec ton monde?
Ben,
des fatigants?
Si ça arrive, un fatigant, je n'ai pas trop, mais si ça arrive, j'accepte le moment. Il faut que j'accepte la proposition. Mais c'est sûr que là, je travaille pour la première médiatique.
Ouais.
Je l'ai eu la semaine passée à Québec, à Montréal, ma première. Là, ce mercredi, puis on n'en a pas parlé parce que c'est complet anyway, mais je l'ai fait à Québec, fait qu'il y a des journalistes qui sont là, fait que là, c'est comme une performance, tu sais, t'es comme aux Olympiques, là, tu veux faire tes tours parfaits, là, tu sais, fait que tu t'es là-dedans, fait que je vais pas trop aller hors route, je sors pas de la piste, t'sais. Mais dès que la première est passée, je vais un peu plus me permettre d'improviser sur scène s'il faut.
Ok, on fait une courte pause, on vient tout de suite.
Marceau le soir.
On passe la soirée en compagnie de Louis T qui sera de passage à Québec à la salle Albert Rousseau le 16 janvier prochain. Je suis allé voir tantôt, il reste quelques bons billets. Louis T qui participe à des podcasts. Tu as commencé à faire des podcasts aussi avec Kim Lizotte. Ouais. J'écoute ça une fois de temps en temps.
Ouais.
Des fois, je vous parle, vous m'entendez pas, je vous crie après. Mais non, qu'est-ce que c'est ça? T'aimes-tu cette formule-là un peu décontractée où on peut parler de tout et de rien?
Ah oui, j'aime ça, mais c'est fascinant parce que, tu sais, de Montréal, on a une opinion de la radio de Québec ou du moins on a des échantillons, on a une opinion. Des fois, il y a un peu un snobisme, peut avoir du jugement, tu sais. Puis faire un podcast de 2 heures ad lib avec une amie, une fois par semaine, fait réaliser comment hey, ça peut être dangereux parler sans préparation. Je réalise ça.
Il y a de la préparation, mais c'est de parler en direct.
Ben, il y a ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est que après chaque épisode, là,
ouais.
Je fais comme « Ah non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, ah, non, j'ai dit ça, mais t'as peu, je voudrais corriger. » Fait que je me dis, je veux pas être trop encore licheux. Okay? Je me dis, si tu me mettais 1 heure ou 2 de radio par jour en direct, oh my God, je dirais des niaiseries.
Louis, j'en fais 5 heures.
Ouais.
Je fais 5 heures de radio par jour en direct.
C'est dangereux.
Et est-ce que c'est dangereux? On apprend à travailler avec les collègues et tout ça. Mm-hmm. On s'en parlait tantôt avec ce qui est arrivé au 98.5 avec Jérémy Filosa. C'est dangereux, mais c'est l'importance de te positionner en équipe quand tu fais un podcast.
Ouais.
Quand toi, tu es avec Kim, elle te protège, tu la protèges. Puis si jamais elle sort quelque chose, tu vas essayer de reprendre la balle au bon puis de raviser un peu. Là.
Oui, puis tu mets pas le nez dans le caca de l'autre, mais tu t'arranges pour essayer de nuancer, pour que l'auditeur comprenne. Puis tu donnes aussi à l'autre une chance de nuancer ce qu'il vient de dire. Puis il faut ça, parce que surtout que nous, on essaie... Ben, on est beaucoup d'accord sur beaucoup de choses, mais on essaie quand même de discuter de certains enjeux qu'on n'a pas la même vision. Fait que il y a un beau défi avec ça, mais c'est un apprentissage, mais j'adore ça. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de radio. Je suis un gars d'audio, tu sais, puis le faire, je trouve que c'est une belle école. Fait que moi, je suis bien content. Mais après ça, est-ce que tu me dis, est-ce que c'est parfait, puis tout? Je trouve que je réalise le talent des gens qui en font depuis longtemps aussi en faisant à petite dose comme ça.
Ouais, puis tu vas voir, quand il va arriver des affaires que vous n'étiez pas entendu au départ sur les sujets abordés, des fois, tu peux être complètement perdu puis te dire « Où est-ce que je suis rendu? »
Ouais.
Tu me fais parler de ça, j'ai aucune idée où je suis rendu dans mes explications. Mais il faut que tu te sortes du trouble. Puis effectivement, quand c'est en direct, on dirait que les gens sont capables de faire la différence. Mais quand c'est un podcast, puis c'est une erreur qui est majeure...
Ça pardonne moins que raison, parce que le direct, on le comprend, tandis que là, tu dis, hey, vous l'avez enregistré, vous avez décidé de le publier quand même, fait qu'il y a ça. Il y a déjà, semble-t-il, quelques extraits qui ont sorti de notre podcast qui ont généré de la controverse sur les réseaux sociaux.
Vous êtes passé à la journée, t'es encore jeune de mémoire.
Mais là, c'est des amis, ça fait que peut-être qu'ils ont fait un clin d'œil par rapport à ça, mais on m'a dit qu'il y avait des gens à Québec aussi qui parlaient de nous. Mais j'ai pas été au courant, mais je vis bien avec ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est
Louis
passé.
Louis T, dans 10 ans, il se voyait où comme humoriste? Est-ce qu'il va être ce bon vieux Louis T là ou il va peut-être merger vers d'autres choses?
Sur scène, tu sais, comme je me trouve meilleur à chaque 6 mois, puis je trouve que j'étais pas bon il y a 6 mois, j'ose croire que je vais être encore meilleur dans 10 ans. Fait que j'aspire ça à réussir à avoir abordé d'autres sujets sensibles, puis être fier, puis en avoir fait d'autres. Mais c'est difficile pour artistiquement. De parler de... Tu sais, si je te disais, là, « Ah, j'aimerais ça animer un talk show, tu sais, un jour, là, tu sais. »
Ouais.
Mais il va-tu en avoir encore de la télé dans 8 ans?
Ben,
fait que tu comprends, en fait, c'est, je peux pas te dire ce que...
Il va y avoir encore de la télé, c'est sous quelle plateforme qu'il va y avoir cette télé?
Ouais, fait que c'est difficile de se projeter dans l'avenir de ce côté-là, mais la scène, j'arrêterai jamais.
Okay.
Ça, je le sais que mon avenir à moi, mon dada, ça va rester la scène parce que je me suis découvert... Pendant la pandémie, c'est ce qui m'a le plus manqué. C'est pas la télé, c'est pas la radio, c'est pas d'écrire, c'est de faire de la scène, tu sais. Fait que ça, je sais maintenant que c'est là que je veux me réaliser. Mais je demeure ouvert à faire d'autres choses. Comme je dis, je suis passionné de médias, de communication, la radio, j'aime ça, la télé, j'aime ça. Où, comment, je sais pas, on verra.
Mais tu disais que tu doutais que là, 6 mois, tu te trouvais pas bon, dans 6 mois, tu vas te trouver meilleur. T'as-tu le sentiment d'imposteur? Ta gérante qui est là, avec qui je jasais tout à l'heure pendant la pause, elle est gérante aussi de Pierre-Yves Lard.
Ouais.
P.Y. Le chum P.Y. Excellent grand joueur de hockey, soit dit en passant. Ben c'est oui. juste que son patin, des fois, il y a de la difficulté.
J'ai joué un petit peu avec lui quelques fois. Mais oui, il est motivé. Mais, il joue motivé.
Mais PY, il a fait de la radio pendant des années et des années à Québec. Par la suite, sa carrière s'est envolée vers Montréal. Puis il fait Québec-Montréal maintenant, puis il trippe comme pas possible. Mais j'avais été surpris dans une entrevue, ça fait peut-être 4-5 ans, mais il m'avait dit, tu sais, Yann, j'ai encore le sentiment d'imposteur.
Ouais.
On dirait que tout ce qui m'arrive, des fois, j'ai pas l'impression que je le mérite. T'as-tu ça, des fois? Quand les auditeurs, quand tes spectateurs viennent te voir et te serrer la main en disant « Merci, Louis, de nous avoir fait passer une belle soirée », dire « Hey, je mérite tout ça, moi, c'est remerciement-là. »
Je le comprends. Si les gens viennent me dire « J'ai ri, c'est bon, c'est pertinent », je vis bien avec ça. Quand les gens viennent te dire « Hey, c'est brillant, c'est vraiment de l'humour intelligent », là, je fais comme « ça, c'est un peu exagéré. » Ah oui, ça, c'est plus dur comme compliment parce que tu veux pas te croire. Je pense que tu es bon dans la vie tant que tu te trouves pas bon. Quand tu commences à te trouver trop bon, là tu deviens un peu plus paresseux, tu vas devenir moins bon. Fait que faut être prudent dans notre domaine, faut pas se trouver trop bon. Fait que ça, je fais attention à ça. Ouais. Mais j'ai pas un sentiment d'imposteur parce que fait un an que je le travaille, ce Christy Show-là, avec une équipe puis tout. Fait que genre, j'arrive puis je le montre, c'est bon, là, je l'assume, tu sais.
Quand il t'arrive la page blanche, as-tu déjà eu ce syndrome-là de la
non.
page blanche?
Non. Non, je manque de temps ou de tribunes pour dire. Ben, pas des tribunes, mais tu sais, j'ai déjà hâte d'écrire un nouveau show. Là. Ça n'a pas de bon sens, je lance celui-là. T'sais. Non, j'ai trop de choses à dire. C'est le temps pour bien le faire là, qui va me manquer, mais j'ai pas de page blanche. J'ai plein de notes, là. J'ai plein de notes de choses que je veux parler, puis j'ai pas. Moi, je lancerai ce show-là, puis après ça, j'en repartirai un autre là, la semaine prochaine. Là.
OK. Ouais. Une machine.
Ben, c'est parce qu'il se passe tellement de choses. Puis, tu sais, j'aborde, mettons, 9 thèmes dans ce show-là. Mais je peux t'en trouver 9 autres tout de suite des thèmes. Là. Il y a tellement d'affaires à parler. Fait que non, pas pour le moment. Mais je dis pas qu'un jour, peut-être qu'après 5-6 one-man show, peut-être que tu as sorti ce que tu avais à dire. Là, je sais pas.
Fait qu'on va t'entendre encore longtemps.
Malheureusement pour mes détracteurs. Hey, on pourra plus bloquer sur Twitter bientôt, ça va changer ma vie.
D'ailleurs, je pense que tu m'as bloqué sur Twitter.
Ça se peut, hein? Ça se peut. C'est ça que je voulais dire. C'est un peu ça que.
M'enlève
on vérifie tout ça.
Louis, T. D'après moi, tu m'as bloqué. Là,
je pense que j'ai bloqué Ville de Québec, ça se peut. À titre préventif, j'ai juste géolocalisé.
Mais le pire, c'est que je t'avais jamais parlé sur les réseaux sociaux.
Moi, là...
Ben oui, tu m'as bloqué.
OK, je vais te dire pourquoi. Si on a-tu 30 secondes, je te dis pourquoi.
Vas-y.
Il y avait un outil qui s'appelait, MassBlock.
Ouais.
OK, c'était il y a un an ou deux que tu pouvais bloquer tous les gens qui avaient liké un commentaire.
OK.
Fait que je pense que j'ai bloqué la moitié du Québec dans ce temps-là parce que dès que je voyais un statut que j'aimais pas, je bloquais les 800 qui avaient liké le commentaire. Fait que c'est pour ça que bien des gens, des fois, qui me voient dans la vraie vie, fait « Hey, tu m'as bloqué. » Je fais comme « Pas vraiment. » Je t'ai pas bloqué personnellement, mais tu as peut-être liké un commentaire que j'ai pas aimé.
Faut pas le prendre personnel.
Mais là, c'est presque fini parce que... Non, faut pas le prendre personnel. Mais tout ça va se débloquer éventuellement.
Ouais. Hey Louis, on se donne rendez-vous le 16 janvier prochain. Tu seras disponible à la salle Albert Rousseau pour les gens qui vont aller te voir. Reste encore de très bons billets, soit dit en passant. Pour les spectacles à Québec qui seront dans les prochaines heures, il reste plus de place pendant
ça, c'est fini.
Donc les gens de Québec, même si tu les as bloqués, ils t'apprécient quand même. Puis on s'en donne rendez-vous le 16.
Yes.
Janvier.
Merci
beaucoup.
Bye-bye.